à toutes et à tous et bienvenue dans GD News, l'émission des 4e du collège Jean-Dieuzède à Pêche-Beaugneux.
Nous avons choisi d'occuper le studio radio du collège pour tenter de faire notre propre émission d'information dans les règles de l'art.
Et en tant que journaliste en herbe, dans ce numéro très spécial, nous avons décidé de nous intéresser, devinez à quoi ? Je vous le donne en mille, au journalisme. Mais pourquoi ce choix ? Tom, vous vous en souvenez ?
À vrai dire, ce sont plutôt nos profs qui ont choisi le thème. Si nous nous étions écoutés, nous aurions plutôt parlé de sport ou de jeux vidéo.
Mais comme nous avions la chance d'être accompagnés par une journaliste pour réaliser cette émission, c'était l'occasion de nous intéresser de plus près à ce métier. Tom, dites-nous, avant de faire cet atelier, pour vous, c'était quoi le journalisme ?
Eh bien, à vrai dire, pour moi, le journaliste, c'était plus des gens qui partaient sur le terrain pour interviewer d'autres personnes sur les actualités et tout ça. Pour moi, c'était ça, le journaliste.
Et vous, Marie-Elisa ?
C'est sûr que j'avais plutôt en tête l'idée d'une personne que je vois devant l'écran, qui me dit les infos à 20h et qui, pour moi, gagne plutôt bien sa vie. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est vraiment des gens qui, derrière les écrans, écrivent nos articles de presse et qui ne sont pas forcément connus.
Oui, et c'était intéressant de comprendre aussi que derrière la façade des présentateurs télévedettes, le journalisme de terrain...
Je me permets de vous couper. Je veux vous dire que les présentateurs vedettes sont rarement des journalistes. Parfois, ils l'ont été, certes, mais ils se sont ensuite éloignés du métier.
Tout à fait, Tom. C'est pour ça qu'on a envie d'essayer de faire portrait de cette profession, qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça.
C'est vrai qu'on est noyé sous les informations aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et toutes les applis qu'on utilise. Parfois, ce n'est pas facile de démêler le vrai du faux.
D'Albert Londres à Hugo Décrypte, les pratiques ont changé, l'économie de la presse aussi. Partons à la découverte de toutes les facettes du métier. Pour commencer, Marie-Lisa, comment savoir si l'on a affaire à un vrai journaliste ?
Eh bien, c'est un métier, on l'a dit. Et comme tous les métiers, on le reconnaît à sa fonction. Le journaliste a pour but, avant tout, d'informer.
Mais ça veut dire quoi, informer ?
Ça veut dire qu'un journaliste observe les éléments sur le terrain, il fait appel à plusieurs sources qu'il croise, c'est-à-dire qu'il compare et recoupe pour vérifier les éléments. Et il le fait parfois au risque de sa liberté, voire sa vie. Quand on dit ça, on pense aux reporters de guerre, n'est-ce pas, Sarah ?
Bien sûr, Marie-Lisa. Vous connaissez Reporters sans frontières ? C'est une ONG française très connue qui fait chaque année l'état des lieux de la liberté de la presse dans le monde. Elle recense notamment le nombre de journalistes tués et emprisonnés.
En 2024, 104 journalistes ont perdu la vie. Mais ils sont encore plus nombreux à avoir été emprisonnés. N'est-ce pas, Owen, Yannis et Célian ?
Effectivement, 361, c'est le nombre de journalistes ayant été emprisonnés en 2024 dans le monde pour avoir divulgué des informations sensibles, selon l'association Reporters sans frontières.
En 2023, on a relevé jusqu'à 42 pays dans lesquels les droits des journalistes ne sont pas respectés. Cette quantité de pays a doublé depuis 2018. Dans les pays comme l'Inde, la Chine et la Russie, beaucoup de journalistes sont morts. On va jusqu'à plus de 200 en Palestine, rien que lors du conflit actuel avec Israël.
C'est la Chine qui détient le record de journalistes emprisonnés, environ 123 journalistes rien qu'en 2024. En Érythrée, un journaliste suédois, Dawi Isaac, est emprisonné depuis 20 ans sans aucun procès.
En France, il y a très longtemps que la presse est libre de s'exprimer. C'est une loi de 1831 qui le permet. Mais on réfléchissait déjà à cette question depuis 1631, lors de l'apparition du premier journal qui s'appelait La Gazette.
Mais c'est la loi de 1881 qui impose un cadre légal à la liberté de la presse.
Attention cependant, même si les journalistes français ont moins d'entraves à leur liberté que certains de leurs confrères dans d'autres pays du monde, la France n'est pas un modèle non plus.
Dans le dernier classement de Reporters sans frontières, elle arrive en 25e position, car les pressions économiques et le regroupement des médias dans les mains de quelques grands propriétaires, ça aussi ce sont des facteurs qui nuisent à la liberté de la presse.
Merci à tous les trois. Les journalistes qui prennent le plus de risques et se retrouvent parfois en otage sont les reporters de guerre. Il y a des dizaines d'exemples, mais nos journalistes en herbe, Émile, Benicio et Ethan, ont choisi de s'intéresser à Maryse Burgo. Elle a été otage, n'est-ce pas ?
En effet, 49, c'est le nombre de jours passés par Maryse Burgo en tant qu'otage d'un groupe terroriste du nom d'Abu Sayyaf pendant l'été 2000 aux Philippines, en Asie du Sud-Est.
Mais déjà, qui est Maryse Burgo ?
Maryse est une reporter de guerre spécialisée à l'international au service des enquêtes et reportages de la rédaction de France 2.
Née en 1964, elle est issue d'un milieu modeste, fille de paysan. Elle a d'abord vécu son enfance au nord de Rennes.
C'est très rare pour une femme de devenir reporter de guerre, surtout venant d'un milieu modeste.
Et le fait qu'elle soit mère de famille compliquait les choses quand ses enfants étaient petits. Ils sont maintenant âgés de 18 et 23 ans. Elle en témoigne dans un livre intitulé « Loin de chez moi ».
Dans ce livre, on apprend qu'elle s'est rendue dans de nombreux pays en guerre. En 1999, elle s'est rendue au Kosovo pour un reportage sur l'exil des populations. Elle a d'ailleurs obtenu un prix pour ce reportage.
Puis, en 2019, elle est allée en Syrie, lors de la chute de Baghouz, le dernier fief de l'État islamique.
Enfin, en 2021, elle est allée en Afghanistan. Elle a fait un reportage démontrant les conditions de vie des populations pendant la guerre.
À un moment de sa carrière, elle a décidé de rester aux États-Unis et à Londres, où elle était correspondante, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants.
Actuellement, elle va régulièrement en Ukraine aux côtés des soldats sur la ligne de front.
Pourquoi avez-vous choisi de faire le portrait d'une femme ?
Ben, tout simplement pour montrer que les femmes peuvent aussi faire ce métier risqué, souvent réservé aux hommes.
En tout cas, merci à vous. Et pour explorer ce thème passionnant et même fascinant, nous avons lu en classe une nouvelle qui s'intéresse à la figure du reporter de guerre. Timéo, Cécile et Noam nous en font un petit résumé et une critique.
Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vivons une période avec beaucoup de conflits, comme le conflit israélo-palestinien et la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Pour nous informer, de nombreux reporters de guerre y risquent leur vie.
Et aujourd'hui, nous vous proposons de rentrer dans leur univers à travers un livre.
Oui, exactement. J'ai à côté de moi une nouvelle, Le salaire du sniper de Didier Delanix. C'est une nouvelle qui parle d'un journaliste et d'un caméraman en mission dans un pays fictif en guerre.
Cette nouvelle est sortie en 1998 et issue du livre Passage d'enfer. Et même si cette nouvelle date un peu, elle est toujours d'actualité. Mais de quoi parle-t-elle ?
Cette nouvelle parle de la confiance des reporters de guerre envers les habitants sur le terrain. Elle traite aussi du devoir qu'ont les journalistes de bien vérifier leurs informations, ce qui est beaucoup plus compliqué sur un terrain inconnu et quand on est dans l'urgence.
Si nous rentrons dans l'histoire du livre, nous suivons Jean-Yves et Philippe, deux journalistes qui ont pour mission de réaliser un reportage sur Kotorosk, qui est une ville fictive en guerre.
Oui, en effet. Et leur chef va les inciter à falsifier les faits, car leur journal fait moins d'audimat.
Ils vont alors trouver une idée de reportage. Ils vont filmer un enfant vivant sous une autoroute avec sa famille. Et ils trouvent alors que c'était un très bon sujet.
Mais sans rien dire, Philippe va payer une personne pour tendre un piège à l'enfant, pour pouvoir rendre ce reportage un peu plus sensationnel et gagner de l'audimat.
Lorsque l'enfant est pris au piège, nous ne savons pas qui est l'auteur du piège. Le lecteur croit donc que les journalistes n'y sont pour rien.
Sauf qu'à la fin, on nous explique que Philippe a pris un sniper pour tuer l'enfant.
C'est très choquant, surtout qu'il existe une déontologie pour les journalistes. La charte de Munich, c'est une liste de règles que doivent respecter les journalistes.
Et justement, c'est complètement interdit de falsifier des informations.
En effet, les deux reporters ne suivent pas du tout la charte de Munich, même si c'est très compliqué d'intervenir sur le terrain de guerre. Pour les journalistes, rien n'excuse un tel comportement.
Et d'ailleurs, le lecteur est peu préparé à la chute, ce qui la rend encore plus violente.
C'est un livre merveilleusement écrit, même si l'histoire est sombre. On n'est jamais fatigué de ce livre. Les personnages ont un caractère très compliqué, mais surtout opposé. Tandis que l'un des deux journalistes veut payer un assassin pour tuer le petit Joshka, l'autre veut suivre la charte de Munich, et c'est ce qui rend la fin très marquante.
Eh bien, écoute Noam, je suis du même avis que toi. J'ai rajouté même que l'histoire est bien expliquée et facile à comprendre.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. Merci à vous deux. Au revoir.
Certains journalistes qui se contentent de relater les faits tels qu'ils sont sur des terrains dangereux se retrouvent otages. Cela arrive régulièrement à des reporters français. Nos journalistes Manon, Amy et Roman se sont intéressés à l'un d'entre eux. Il s'appelle Olivier Dubois. Il est correspondant au Mali pour le magazine Le Point et le quotidien Libération.
701 jours. 701 jours, c'est le nombre de jours qu'Olivier Dubois a passé entre les mains d'Al-Qaïda.
Mais qui est Olivier Dubois ?
Olivier Dubois est un journaliste français qui travaille dans la région du Sahel pour le journal Le Point et le quotidien Libération.
Il vit au Mali depuis 6 ans où il se produisait régulièrement des attaques terroristes. Mais ce jour-là, le 8 avril 2021, sa vie a basculé.
Mais que lui est-il arrivé ?
Olivier a été enlevé par une organisation terroriste et islamique fondée en 1987. Il s'agit d'Al-Qaïda.
Ce jour-là, notre journaliste se rendait à Gao. Qu'allait-il faire là-bas ?
Il pensait interviewer le chef d'une organisation terroriste, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
Olivier s'est fait kidnapper, séquestré dans une voiture. Il a été dénudé et on lui a bandé les yeux.
En bref, je pense que l'on peut dire qu'il a été privé d'humanité.
Mais pourquoi a-t-il été kidnappé ?
Ses ravisseurs pensaient qu'il était un agent secret.
Comment étaient ses conditions de détention là-bas ?
Les premières nuits, il était enchaîné, mais en journée, il était détaché et il avait la liberté de faire du sport pour rester en bonne santé et pour ne pas faiblir mentalement.
Il a vécu l'enfer durant 2 longues années, loin de sa famille, dans des conditions difficiles.
Finalement, comment sa détention a-t-elle pris fin ?
Malheureusement, on ne sait pas grand-chose au sujet de sa libération. Nous savons seulement que le Niger a aidé.
Il a finalement été libéré le 20 mars 2023.
Après cette longue détention de 2 ans, une fois rentré chez lui, il a décidé de raconter son histoire dans un livre intitulé « Prisonnier du désert » paru en janvier 2025.
A priori, il ne travaille plus au Mali, mais on ne connaît pas son activité actuelle.
Des figures marquantes du journalisme, au parcours héroïque comme celui d'Olivier Dubois, il y en a de plus anciennes. C'est le cas d'Albert Londres, ce nom ne vous disait peut-être rien avant de préparer cette émission, Marie-Elisa ?
En effet, et pourtant on le surnomme le prince du grand reportage. Julia, Lily et Vanina ont fait son portrait. On vous écoute, mesdames.
Si vous ne savez pas qui est cet homme, on vous l'apprend aujourd'hui.
Cet homme est un grand journaliste célèbre et reporter français. Il s'appelle Albert Londres. Il est né le 1er novembre 1884 à Vichy et a disparu en mer dans un incendie en 1932.
Et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui ?
Eh bien, parce qu'il est le père du journalisme d'investigation.
Mais qu'est-ce que le journalisme d'investigation ?
Ça consiste à chercher, enquêter et révéler des infos cachées au public.
Albert Londres a travaillé avec plusieurs journaux.
Lesquels ?
Le Matin, Excelsior ou bien encore Le Petit Journal.
Mais quel est le plus célèbre ?
Plus célèbre reste Le Petit Parisien, qui est paru de 1876 à 1944. Mais d'ailleurs, comment s'est-il fait connaître ?
Il a été connu par son reportage en Guyane sur le bagne de Cayenne.
Vous savez, c'est une prison située en Guyane où les prisonniers devaient travailler très dur.
Eh bien, Albert Londres va s'y rendre pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les prisonniers français. D'ailleurs, la moitié des prisonniers mouraient pendant leur détention.
Et est-il connu pour d'autres reportages ?
Oui, beaucoup d'autres, et notamment pour son reportage sur le travail forcé dans les colonies d'Afrique, notamment au Congo en 1928.
Mais ne vous faites pas avoir, cet homme n'est pas né à Londres.
Et non, on vous l'a dit, il est né à Vichy. Et vous oublierez encore moins son nom quand vous entendrez la suite de cette émission. Mais avant cela, avec mes camarades, nous allons céder la parole à 3 autres présentateurs. Chères auditrices, chers auditeurs, restez avec nous. Lily, Manon et Owen, à vous les studios.